Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Disparu en 2018, Jean-Marie Lamblard aura été tout à la fois un écrivain, essayiste, romancier et conteur, un passionné de théâtre, mais aussi un éleveur de pintades. Devenu docteur en ethnozoologie, il aura consacré des dizaines d'années de recherche et de voyage à l'oiseau mythique caché derrière la banale volaille de nos basses-cours. Dans les mythologies, les légendes et l'histoire, dans tout genre de récits et de représentations, Jean-Marie Lamblard a mis en lumière la présence à travers le monde et les millénaires de cet oiseau venu du fond de l'âge de l'Afrique de l'Ouest. De ce travail est né L'oiseau nègre, l'aventure des pintades dionysiaques, un ouvrage paru en 2003. Et en 1987, déjà, sur France Culture, c'était au tour de Jean-Marie Lamblard que Les Chemins de la Connaissance proposaient une série de 5 émissions consacrées à la pintade. Dans les premières minutes du troisième volet, on y découvrait comment le caractère rebelle de cet animal rétif à la domestication avait séduit notre grande chanteur de blues, Colette Mani, qui, fascinée par l'oiseau de paradis que lui avait fait découvrir Jean-Marie Lamblard, devait lui consacrer un album tout entier. Les Chemins de la Connaissance, Le Testament de la Pintade, troisième partie, La Pintade, déesse des rivières et de l'amour, une émission de Cécile Amcy, diffusée la première fois le 24 juin 1987, à laquelle, outre Jean-Marie Lamblard, participaient le plasticien Ernest Pignon-Ernest, l'ethnologue Raymond Pujol, l'écrivain haïtien Jean-Claude Fignolet et Colette Mani. Réalisation, Claude Guerre.
Ça s'appelle donc Évorque et le délirance, parce que cette pintade est un animal bizarre, comme a dû vous le dire Jean-Marie Lamblard. Enfin, bizarre, c'est ça qui m'a frappé aussi. Bon, c'est d'abord ces deux hommes-là, comme ça. Oh, alors, il m'a invité à manger sous le bord du Gard, et il m'a raconté ses histoires de pintade. Oh, j'ai ressorti là la tête pleine de plumes. Oui, parce qu'il m'a raconté la déesse des rivières et de l'amour. Alors, une tribu du Niger, les Bambara, elle sert pour les sacrifices, chant qu'on les gorge, et puis son sang tombe sur la robe comme le plumage de la pintade, avec des petites perles, sur la déesse des rivières de l'amour. Oh, rien que cette image, moi, ça m'a sidéré. Puis il m'a raconté qu'il avait écrit dans tous les musées du monde. Il m'a montré toutes les reproductions qu'il a reçues. Oh, j'étais étonné. Et alors, ce qui m'a intéressé aussi après, c'est le caractère de cette bestiole. Et une, indomesticable. Si au bout d'un an, on la laisse dans le pré où elle est, enfin le clos, l'enclos où elle est, elle redevient sauvage immédiatement.
Le premier homme serait né en Afrique, il y a quelque 14 millions d'années. Est-ce de frayeur qu'en Occident, nous sommes devenus tout blancs?
Si à l'origine, la pintade était exclusivement originaire d'Afrique ou du pourtour méditerranéen, de nos jours, elle se trouve répandue dans le monde entier. Et dans certains pays, elle s'est reproduite à l'état sauvage et elle a proliféré. À tel point que dans certains pays, notamment d'Amérique, la pintade est devenue, à certaines époques, un véritable fléau. Alors quand on étudie l'importation des pintades aux Amériques, on s'aperçoit qu'elle a été importée exactement en même temps que les premiers noirs que l'on importait pour l'esclavage. L'infant d'Espagne, Don Eric, avait au Cap sa Grèce, installé une véritable station agronomique pour préparer ses expéditions. Il y avait des cartographes, il y avait des gens qui étudiaient le comportement des navigateurs pour pourvoir les marins de viande fraîche. Ils avaient imaginé de transporter sur les bateaux des cages de pintades. Et ils avaient parfaitement raison, parce que la viande ne pouvant pas se conserver autrement que vivante, on n'avait pas d'autre solution. Il y avait donc une véritable station d'élevage de pintades installée sur une île qui avait pour but de pourvoir en viande fraîche et en œufs les premiers voyageurs. Et c'est ainsi que les premières expéditions en direction des Terres Neuves ont transporté des pintades. Ces pintades, arrivées à Haïti, à la Jamaïque, avec les premiers esclaves noirs, se sont elles aussi parfois échappées. Vous savez que quand un esclave noir choisissait la liberté, on l'appelait nègre marron. Marron qui en espagnol veut dire sauvage. Les pintades, elles aussi, ont choisi la liberté, se sont reproduites dans les montagnes et on les appelait, comme les noirs, pintades marron.
La pintade vit à l'état quasi sauvage en Haïti et elle est très très difficile à capturer, par exemple. On n'arrive pas, encore après, à domestiquer la pintade.
Jean-Claude Fignol.
Et c'est pourquoi peut-être elle symbolise la ruse, la méfiance. Dans le vaudou, c'est le symbole de la vigilance. Et c'est ce qui explique que Duvalier a pu choisir ça, a pu choisir la pintade pour la porter sur l'emblème des miliciens, sur le drapeau des miliciens. Et dans l'imagerie populaire, la pintade est synonyme de ruse, de méfiance. Ainsi, on dira d'une femme qui promet tout, mais qui refuse de s'avancer dans une relation amoureuse avec quelqu'un, on dira d'elle qu'elle est pintade. Et de quelqu'un aussi qui veut monter une affaire, un business, et qui hésite, qui prend son temps, qui discute, qui parle, on dira aussi qu'elle est pintade.
Ces hommes arrachés à leur terre, ces femmes, ces enfants que l'on transportait en cargaison, ce qu'on appelait le bois d'ébène, emportaient avec eux leurs rites, leurs initiations, leur musique, leurs contes. Et automatiquement, la pintade, qui avait une grande importance dans leur religion, se retrouvait là-bas aussi, liée à eux. Choisissant la liberté de la même façon, la pintade va se trouver auprès des Noirs d'Amérique, symboliser la liberté. Et c'est ainsi que dans le drapeau de la République d'Haïti, nous avons une pintade. Malheureusement, le président Duvalier, l'ayant récupéré comme son totem personnel, les Haïtiens modernes considèrent la pintade d'un œil un peu suspect, mais elle était le symbole de la liberté. Les religions d'Amérique, des Noirs d'Amérique, à Bahia, au Brésil, à Cuba, sont ce qu'on appelle le vaudou, Santeria à Cuba, vaudou. Et la pintade est présente dans la messe vaudou. Le vaudou est extrêmement compliqué et les Blancs n'en ont qu'une connaissance restreinte. Le vaudou que l'on va voir quand on est touriste n'a rien à voir avec le véritable culte vaudou. Donc je n'en dirai pas grand-chose. Mais je peux vous affirmer que la pintade est l'oiseau de sacrifice, notamment des Noirs de Bahia. Et nous voyons dans des photos qui ont été prises aussi bien sur les côtes de Guinée que dans les rites d'initiation des Noirs de Bahia, la pintade sacrifiée sur la tête du novice le jour du don du nom. Il y a une très belle photo publiée par Georges Bataille aux éditions de Minuit dans l'érotisme où l'on voit une pintade blanche sacrifiée sur la tête du novice. Malheureusement, Bataille l'a appelée poulet, mais c'est une pintade.
Oui, alors, en plus, c'est un animal fragile. Elle se panique. Alors, se monte les unes sur les autres. Boum, forcément, il y en a qui meurent en dessous. Voilà.
À quelles occasions elles font ça?
Mais à l'occasion de rien du tout, un petit cri d'oiseau.
Elle s'effraie vite, quoi.
Elle s'effraie très vite, elle se panique, elle se détruit, du coup. Alors, Jean-Marie Lamblard prétend qu'elles ont de l'humour, également. Elles font enrager les éleveurs, elles pondent quelques petits œufs par-ci, plouf, alors lui, il y va, comme un imbécile, puis plouf, elles les ont mis ailleurs, enfin, elles font semblant, tout ça. Enfin, lui dit ça, il l'a vécu, alors, je suppose que c'est vrai, enfin, moi, ça m'a intéressé. En plus, on reconnaît difficilement leur sexe. Par la crête, ça c'est amusant. Enfin, vous voyez tout le pas. Ah, en plus, le dindon américain a brouillé le marché de la pintade en je ne sais plus quelle année. Vous imaginez tout ce que je peux tirer de tout ça. Voilà. Alors, moi j'étais fasciné par tout ce qu'il m'a raconté en 69, donc. Et je suis revenu à Paris, je vous dis, la tête pleine de plumes dans la tête. Je raconte ça à une amie qui me dit, mais Colette, as-tu pensé à la lutte des paysans? Oh, ben, j'ai dit non. Non, en effet, j'ai pas pensé. Enfin, ça me serait venu qu'elle est bête. Hein? Alors je lui dis, bon, ben, je n'ai pas fait d'études supérieures, comme on dit. Alors je lui dis, ben, tu me fais une bibliographie, puis je vais me renseigner sur la lutte des paysans. Ça m'a perdu. Pendant 2 ans, je croque, j'étais dans les livres, et j'ai perdu les plumes. Alors boum, la pintade enterrée.
Puisque nous parlons ici, en France, aujourd'hui, de pintade, c'est qu'un jour, elle a été amenée chez nous, et nous l'avons baptisée pintade. En fait, on peut s'interroger, pourquoi pintade? Qu'est-ce que ça peut bien signifier, pintade? Ça signifie tout simplement peinte, poule peinte, sous-entendu. Et plus particulièrement, dans le sens de peinte, comme on dirait assez volontiers dans les villages, oh, cette femme se peint. Se met des couleurs sur le visage. Ce sont les bleus de ses joues, le blanc, le rouge de ses barbillons qui lui ont donné ce nom de poule peinte. Et bien souvent d'ailleurs, dans à peu près toutes les langues, elle a un nom qui fait référence à la poule, ou aux perles du plumage, ou aux colorations de sa tête. Donc, poule perlée, poule peinte. Alors, pintade vient tout simplement d'une langue romane, probablement la langue occitane pour nous, qui signifie pintado, poule peinte. On peut en trouver peut-être l'origine dans le roman de Renard où la plus coquette des poules s'appelle peinte, elle aussi. Certains dictionnaires disent que ce nom vient du portugais ou de l'espagnol, pintada. Moi, je pense qu'il peut tout aussi bien venir de la langue occitane puisque les ports actifs dans le commerce à ces époques-là d'importation de pintade étaient tout autant Marseille, Narbonne que Lisbonne.
Donc au départ, Jean-Marie Lamblard est venu vous voir et vous a proposé une thèse qui s'appelait « La quête des pintades ».
La quête des pintades, oui.
Professeur Raymond Pujol.
Et après cette thèse définitive a pris le nom d'étude ethnozoologique des pintades, « Les pintades et les hommes », qui est une étude, disons, très exhaustive sur les relations et interrelations de cet oiseau domestique, les interrelations entre cet oiseau et l'homme, bon, qui font l'objet d'un énorme travail. À ma connaissance, sur les oiseaux domestiques, je ne connais pas un travail aussi important. Et cette contribution est énorme sur le plan des pintades en général, de la biologie, de l'ethnozoologie à travers le monde entier, et particulièrement l'Afrique, car on sait que la pintade est un oiseau originaire d'Afrique. Et cette pintade, la domestication de cette pintade, s'est passée, si vous voulez, brutalement. Un peu comme, je dois dire, la domestication des oies et des canards. Il y a directement le passage de l'état sauvage à l'état domestique. Les Africains prennent des œufs dans la nature, par exemple, carrément au nid, en plein milieu, surtout dans les zones de savane, ils prennent les œufs, ils les mettent à couver sous les poules, et les petites pintades, les petits pintados sont immédiatement domestiqués. Ils vont avec l'homme, c'est pour eux, l'homme est pour eux, si vous voulez, leurs parents. La domestication est très rapide. La même chose pour les oies, la même chose pour le canard. À partir du canard colvert, on a eu le canard domestique. Si vous voulez, par exemple, je cite un exemple, comme contribution à la faune populaire de la France d'Eugène Roland, qui est mort en 1910 et qui a fait une œuvre magistrale en parcourant la France en vélo pour prendre tout ce qui est non vulgaire, dictons, proverbes, légendes, contes, superstitions. Le travail de Lamblard, comme d'autres ethnozoologues français, est considérable et apporte un complément non négligeable à la faune populaire de la France de Roland.
Alors, est-ce que Eugène Roland parle des pintades? Oui.
Eugène Roland parle des pintades, mais il en parle seulement sur 2 pages. Donc, Lamblard, à ce sujet-là, apporte une contribution remarquable, comme d'autres de mes étudiants apportent des contributions remarquables.
À d'autres animaux.
Oui.
Et Jean-Marie Lamblard s'est donc servi de ces 2 pages sur les pintades. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans ces 2 pages?
Dans ces deux pages sur les pintades, on trouvait surtout la pintade en relation avec la météo. Bon, quand, quand une troupe de pintades crie, elle annonce la pluie. On trouve en particulier les noms populaires de la pintade. Les quelques lignes que Roland a pu apporter en 1883 dans le tome 6 sont tout à fait, d'une manière générale, bon, l'oiseau est appelé en France pintade, pintardo dans le Tarn, pintarde, pintaro, pintaro dans l'Aveyron, pintado à Bagnères de Bigorre, pintale en Côte d'Or, pinto dans le Lauragais. Il y a quantité de synonymes étrangers, bien sûr, intéressants, et en particulier la poule d'Inde. Bon, on sait qu'elle n'est pas originaire de l'Inde, mais vraiment d'Afrique. Il y a aussi le nom du mâle, Pintar, en Corrèze. Vous voyez, donc, c'est peu de choses. Les noms de la pintade envoient encore en Corrèze Pintarou, pour désigner une jeune pintade, pousser des cris de pintade, une locution française employée par la marquise de Castelli. Quand les pintades font entendre leur jacassement, on dit qu'elles tournent la meule, bon, dans le Loiret. Alors, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire qu'elle tourne la meule. Alors est-ce là, point d'interrogation. Oui. Alors là, oui, il faut retourner. L'ethnosologie est une science d'enquête, d'érudition bien sûr et d'enquête, mais il faut le retourner. Il faut retourner dans le Loiret et dans cette commune pour comprendre quand les pintades font entendre leur jacassement, on dit qu'elle tourne la meule. Elle tourne la meule.
Et alors, Jean-Marie Lamblard y a été?
Je pense pas qu'il a pu se déplacer dans le Loiret, mais il a apporté beaucoup d'autres choses dans le folklore des pintades. Mm-hmm. Si vous voulez, on peut prendre cette partie-là,
oui,
dans sa thèse.
Tout à fait.
On constate par exemple dans le folklore français qui est pauvre, on a vu dans Roland, par exemple, les deux dictons que donne Lamblard, pintade perché qui crie appelle la pluie dans le Languedoc. Ça, c'est relativement nouveau. Et lorsque les pintades ne cessent de pousser leurs cris stridents, la pluie arrive dans le Bourbonnais. Mm-hmm. Alors, la seule particularité que constate Lamblard et qui est tout à fait remarquable est la façon de tuer l'oiseau. Enfin, les façons. Mm-hmm. Alors, traditionnellement, l'abattage des pintades se fait par pendaison et strangulation. C'est-à-dire qu'on la tue sans la saigner, comme un gibier, comme un faisan, par exemple. Comme une bécasse. Et d'après Lamblard, c'est la seule volaille que l'on sacrifie ainsi. Alors la raison invoquée est que la viande est meilleure. Il n'a pas d'avis personnel sur ses subtilités gastronomiques, mais il y voit la survivance d'un rite ancien qui devait accompagner, au cours de certaines fêtes, le sacrifice des pintades.
Pintade pieuvre, peut-être pintadine, pintade fleur, sûrement innocente. Tu me fais souffrir. Je décrypte les douleurs qui m'assaillent quand je te laisse entamer ma vie.
Alors à quel moment les Occidentaux ont découvert la pintade? Eh bien, si nous remontons, comme l'archéologue qui gratte le sol et qui découvre les strates progressivement, eh bien, nous nous apercevons que les premiers voyages de découverte sur les côtes occidentales de l'Afrique, dès les premiers voyages, dans les récits qu'en ont fait les voyageurs, la pintade est présente. Et oui, puisqu'elle était extrêmement répandue, il y avait d'immenses troupeaux de pintades partout, les premiers voyageurs s'en sont aperçus. Et le premier qui en fasse mention, c'est un jeune Vénitien de 22 ans. Ce jeune Vénitien s'appelait Cadamosto. Il était au service du Portugal et il découvrait de nouvelles terres. Son but était de remonter la rivière Sénégal pour atteindre les sources de l'or. Vous savez, si les Occidentaux allaient en Afrique, c'était pour deux raisons. La première était de trouver de l'or, la seconde, trouver des esclaves. Trouver des pintades était tout à fait secondaire, vous vous en doutez bien. Cadamosto, dans sa rédaction, décrit le paysage et il dit qu'on trouve là des oiseaux qu'à Venise nous appelons poules de pharaon, gallina de pharaon, en abondance. Et que, dit-il, à Venise nous faisons venir du levant. Donc Adamost est le premier texte occidental mentionnant les pentades vues directement dans leur zone d'origine. Et il les appelle poules de Pharaon. Mais en France, comment les appelait-on? Eh bien, en France, depuis le Moyen-Âge, on les appelait poules d'Inde. Et alors là, source de malentendus. Quand, après avoir découvert l'Amérique, les premiers voyageurs trouveront ces gros oiseaux, et ils donneront à ces oiseaux le nom de poules d'Inde, ce qui a fait pour nous d'Inde et dindons, d'où une source de confusion. Mais je crois qu'on peut parfaitement cerner, les premiers dindons sont arrivés en Europe vers 1520. Je vous disais qu'au Moyen-Âge, en Europe, elle portait le nom de poule d'Inde. On peut s'interroger, venait-elle d'Inde? L'Inde, à ce moment-là, n'était pas tout à fait la République de l'Inde que nous connaissons de nos jours. L'Inde, pour le Moyen-Âge, était une contrée mythique, erratique même, qui englobait, bien sûr, le Moyen-Âge connaissait l'Inde proprement dite, mais c'était plutôt, en l'occurrence, un qualificatif de valeur. Vous savez, tout ce qui était cher, tout ce qui était merveilleux était appelé d'Inde. Mais nulle part j'ai trouvé trace d'une quelconque preuve qui me fasse dire qu'à cette époque-là, l'Inde proprement dite connaissait la pentade. En réalité, les civilisations grecques et romaines connaissaient parfaitement la pentade. Les Romains l'importaient, notamment d'Afrique du Nord. Et quel nom leur donnait-on à ce moment-là, à ces oiseaux? Eh bien, on les appelait poules de Numidie. La Numidie étant, comme vous le savez, l'Afrique du Nord, enfin le territoire qui se trouvait derrière Carthage. On l'appelait également poule de Carthage et oiseau d'animal. Tous ces noms font référence à cette contrée d'Afrique du Nord. Il est exact qu'à ce moment-là, il y avait une variété de pentades sauvages qui vivait, qui a maintenant complètement disparu, mais qui vivait dans les confins de Mauritanie et dans les territoires derrière Carthage. Chez les écrivains latins, la pentade porte le nom de poule de Numidie, oiseau de Numidie, poule de Carthage, également parfois poule d'Afrique. Mais on trouve accolé à ce nom-là un autre nom, qui est très important pour nous, puisque c'est le nom Méléagris. Alors, que sont ces Méléagris? La Méléagris vient de chez les Grecs. C'est le nom que les Grecs donnent à un oiseau. Alors, est-ce la même pentade? Alors voilà toute une enquête qu'il faut faire. Je crois que maintenant, on a à peu près bien séparé les choses. La poule de Numidie est une pentade ordinaire, commune, que l'on élève encore de nos jours et qui a les barbillons rouges. C'est très important. Par contre, la Méléagris est une autre variété de pentade, celle qui se trouve dans l'est de l'Afrique, que l'on appelle Numida ptilorhynca, et qui a les barbillons bleus. Barbillons rouges, barbillons bleus. Ce n'est pas une futilité, comme vous allez voir. Parce que au fil des siècles, les voyages de découverte, les voyages de commerce, eh bien, soit ces voyages se rendaient dans l'ouest de l'Afrique et ramenaient des pentades à barbillon rouge, mais auparavant, ils allaient du côté du Levant, et à ce moment-là, les pentades qu'ils ramenaient avaient des barbillons bleus. Et nous allons en trouver des preuves. Et la première trace qui va nous donner une preuve de ces échanges, ce sont les peintres du Quattrocento. Je possédais une photographie d'un dessin, d'un merveilleux dessin de Pisanello, qui se trouvait au musée du Louvre, une photographie en noir et blanc, et je ne savais que Pisanello ne pouvait pas, vu le moment où il dessinait, avoir connu les pentades de l'Ouest africain, puisqu'à de son temps, les voyageurs n'avaient pas encore ramené ces pentades-là. Donc, s'il avait dessiné une pentade, ça ne pouvait être qu'une pentade de l'Est africain, c'est-à-dire une pentade à barbillon bleu. Par ailleurs, j'avais lu dans un ouvrage sur ce peintre que parfois il colorait, il mettait des taches de couleur. Et je me suis dit, cette particularité a dû le frapper. Cette pentade doit avoir du bleu sur les barbillons. Mais comment le savoir? J'écris à plusieurs reprises au musée du Louvre, je n'avais aucune référence pour le faire, on ne m'a jamais répondu. Et un jour, je me suis présenté à la direction et j'ai inventé une petite histoire pour franchir les premiers barrages. Et à ce moment-là, j'ai eu droit de pénétrer dans le cabinet des dessins et on m'a apporté l'album Valardi qui contient les dessins de Pisanel. Et ouvrant, j'ai vu que la Pinta de Pisanel avait les barbillons bleus.
Mais dans les peintures de ces peintres, ces pintades, est-ce qu'elles ont une fonction symbolique? Est-ce que leur représentation est liée à un symbole?
Je vous citais la toile de Benedetto Diana, qui représente une conversation sacrée. Il y a la Vierge entourée de saints de part et d'autre. Et au pied de la Vierge, au point focal du tableau, grandeur nature, une pintade. Étrange, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et sous la pintade, un cartouche dans lequel il y a le nom du peintre. Alors, Benedetto Diana, de son vrai nom Rusconi, Diana donc.
Artemis.
Qui est Diana? C'est le nom latin d'Artémis. Et nous savons, dans la mythologie grecque, que l'inventrice des pintades, c'est Artémis. C'est la déesse tutélaire des pintades. Il y a donc là un lien direct avec la civilisation grecque.
Récemment, j'étais à la Biennale de Venise pour mon travail. Je suis allé voir, bien sûr, les Carpaccio de la vie de Sainte-Ursule. Et tout de suite, j'ai dit, où est la pintade? Je savais qu'il y avait une pintade dans ces magnifiques peintures qu'il y a là-bas. La plus significative, c'est celle qu'il y a au milieu d'une annonciation, vraiment. Je crois que là, elle joue tout à fait ce rôle. Parce que il me semble avoir gardé de toutes ces discussions et de toutes ces découvertes que j'ai faites à propos des pintades via Jean-Marie, c'est à la fois, bien sûr, ce rôle que l'on retrouve dans d'autres oiseaux, alors d'âme, mais en même temps le rôle de fécondité et de virginité en même temps que porte la pintade. Et le fait qu'elle se trouve au milieu de cette annonciation, c'est exemplaire presque, hein, bien sûr.
Venise, à ce moment-là, portait tout l'héritage gréco-romain, par l'héritage de Byzance. Et nous savons que lorsque les Turcs ont occupé Byzance, ils ont été très tolérants vis-à-vis des artistes et des savants. Mais néanmoins, la plupart des artistes et savants sont partis et sont arrivés à Venise. Et Venise en porte la marque. Elle porte aussi la marque de tous ces voyages qui sillonnaient le monde connu d'alors. Et les peintres du Quattrocento sont bien souvent porteurs de cet héritage. Alors, je vous citais Benedetto Diana, qui symbolisait son nom par une pintade, mais Carpaccio. Carpaccio a dessiné une pintade superbe, notamment dans le cycle de Sainte-Ursule. Il y a une série de tableaux de Carpaccio qui raconte cette légende de Sainte-Ursule, et notamment le retour des ambassadeurs en Angleterre. Et là, au pied du baldaquin, nous avons le roi, le féroce anglais, comme dit la légende. Les ambassadeurs viennent lui donner la réponse. Ursule, la Vierge Ursule, veut bien se marier avec son fils à condition qu'on lui laisse un peu de temps et surtout qu'on libère 11 000 vierges. Et au pied du baldaquin, nous avons un singe déguisé en bouffon et une pintade. Le singe, c'est le féroce anglais, la pintade, c'est Sainte Ursule et les 11 000 vierges. Les perles du plumage de la pintade symbolisant les 11 000 vierges. Mi seconda libertà, investit la tua immagine nel tempo, per non averte conosciuta mi fa canzone.
fer-te un poc menys absent. La llibertat, la llibertat. Aquesta dama encadenada que ens està esperant. I el teu nom, llibertat. Poc a poc la barateja.
C'était Les chemins de la connaissance, le testament de la Pintade, troisième partie, la Pintade, déesse des rivières et de l'amour, avec Jean-Marie Lamblard, Ernest Pignon-Ernest, Raymond Pujol, Jean-Claude Fignolet et Colette Magny, une émission de Cécile Amcy. Réalisation Claude Guerre, première diffusion le 24 juin 1987 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.